Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Imaginez que le spationaute Thomas Pesquet, embarqué dans la Station Spatiale Internationale pendant 6 mois, soit obligé de se coltiner une personnalité difficile au sein de l'équipage. Il lui sera hélas compliqué d'échapper à 408 km de la Terre. Notre cher Thomas Pesquet pourra toutefois écouter nos experts Christophe André et François Lelore qui vous délivreront des conseils pour mieux vivre avec une personnalité impulsive, paranoïaque, borderline ou encore colérique. Vous êtes peut-être confronté à un ami, un conjoint, un collègue, un patron, un voisin très difficile à vivre, et cette personnalité difficile, c'est peut-être vous ou moi. Comment les accepter, les gérer, et à quel moment est-il bon de les fuir? Ma complice cet après-midi, Marie-Laure Sonnenschein de Femme Actuelle. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Germaine !
Je suis là !
Bon, il y a un mystère que je veux éclaircir.
Quoi donc ?
J'avais ici une valise à laquelle j'attachais beaucoup d'importance.
Celle qui contenait 60 millions de bijoux ?
Silence !
Papa !
Tais-toi !
C'était pour te dire que Bernadette l'avait rapportée, ta valise.
Ah ! Ah !
Ah ! Pourquoi cries-tu comme ça ? Tout est arrangé.
Il fallait me prévenir, espèce de petite idiote ! Je veux savoir où elle est.
Tu deviens fou, Bertrand.
Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. C'est vrai, je deviens fou.
Et voilà un bel exemple de personnalité difficile incarnée par Louis de Funès dans Oscar. Bonjour François Lelore.
Bonjour Aline.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Aline.
Vous êtes tous les deux psychiatres et vous avez coécrit un classique paru il y a 25 ans, Comment gérer les personnalités difficiles chez Odile Jacob. Et vous publiez une toute nouvelle édition enrichie, Les nouvelles personnalités difficiles. Alors en un quart de siècle, votre livre n'a pas vieilli, mais vous avez mis en avant des personnalités nettement plus visibles aujourd'hui, comme la personnalité borderline ou la personnalité psychopathique.
Oui. Enfin, d'abord, ces personnalités existaient déjà depuis bien longtemps. On trouve des descriptions dans l'histoire, dans la littérature. Mais il nous a semblé qu'effectivement, elles étaient peut-être plus au premier plan qu'autrefois. Vous savez, l'avantage de parler des personnalités difficiles, c'est d'aider chacun et chacune à ouvrir les yeux sur des problèmes qui peuvent venir de la part des autres personnes. Et les problèmes qui peuvent venir des personnalités borderline ou psychopathiques sont souvent très douloureux, très entraîne beaucoup de souffrance, et donc il nous a semblé que c'était bien de mettre un peu l'accent sur ces deux-là. Mais toutes les autres sont, hélas, ou tant mieux, toujours là.
Première question importante, qu'est-ce qu'une personnalité, et est-ce la même chose que le caractère cher à la Bruyère, François Lelore?
Oui, on peut dire oui. D'ailleurs, les deux mots, si vous voulez, il y a une origine latine et grecque, mais... le caractère, c'est comme en anglais, caractère, c'est le rôle au théâtre. Persona, c'était le masque que mettaient ces acteurs grecs. Donc en fait, la personnalité, on peut dire, c'est la manière à la fois de se voir, de voir le monde, la manière habituelle et la manière de réagir. Donc ça se définit par des adjectifs, hein, autoritaire, sociable, méfiant. Et de choses importantes, c'est que ça doit se manifester dans différentes situations, le même trait de caractère, et puis depuis longtemps. Autrement dit, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, avant de dire que c'est une personnalité difficile, il faut vérifier qu'il a des conflits avec les autres, pas qu'avec vous, et qu'il a toujours été un peu comme ça.
Christophe André.
Oui, c'est vrai que le risque de s'arranger finalement avec toutes les personnes avec qui on n'est pas d'accord en les étiquetant pour nous affranchir nous-mêmes de toute remise en question existe. Et ça, c'est capital parce qu'il y a des façons de réagir au monde, par exemple la méfiance, qui sont parfois adaptées. Si vous achetez une voiture d'occasion à quelqu'un que vous ne connaissez pas, bah, il faut être un tout petit peu méfiant quand même, pas forcément croire sur mesure. Par contre, comme le disait François, si vous êtes méfiant tout le temps et avec tout le monde, là, vous avez peut-être un petit bout de pied ou d'orteil dans un registre de personnalité difficile, comme par exemple la personnalité paranoïaque.
Alors, pour bien comprendre ce qu'est une personnalité, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est, par exemple, l'approche dimensionnelle de la personnalité humaine? j'aimerais qu'on s'appuie sur la classification du psychologue américain Herbie Cattell, qui a isolé 16 traits de personnalité que l'on peut mesurer grâce à un test, le CSPF. Expliquez-nous un petit peu, François Lelor, ce que c'est.
Bah, le CSPF, si vous voulez, c'est un test avec énormément de questions qui a été validé. Donc, on interviewe des gens, on leur fait définir des caractères avec des mots, et puis on voit les mêmes mots qui reviennent le plus souvent associés. Et à la fin, on arrive à faire des dimensions. De même, on dit une table, elle a 3 dimensions. On arrive à dire, un caractère, il y a en gros 16 grandes dimensions qui correspondent à des regroupements d'adjectifs. Et donc, c'est un test qui est très utilisé en psychologie. Alors, il y a par exemple la dimension extravertie, introvertie, il y a effectivement la méfiance, il y a la dimension altruiste ou au contraire un peu dure. Enfin, c'est un test utilisé pas mal, enfin, qui fut utilisé pas mal en entreprise.
Et quel est le test de personnalité le plus utilisé par les professionnels de santé, Christophe André ?
Alors, il y a tous les tests qui visent à identifier si les patients relèvent de la classification DSM.
Expliquez ce qu'est le DSM.
Alors, la classification DSM, c'est la classification utilisée par l'Association américaine de psychiatrie, qui est actuellement la plus largement utilisée par tous les chercheurs dans le monde entier. Mais vous savez, par rapport à ces histoires de tests, il faut préciser quelque chose de très important. C'est-à-dire que pour être sûr d'un diagnostic de personnalité difficile, c'est pas juste en cochant des cases. Vous savez, on, dans notre livre, on a donné des indications, des petits questionnaires pour voir combien de cases sont cochées par vous-même ou par vos proches, pour commencer à se poser des questions sur tel ou tel type de personnalité. Mais en réalité, on utilise ce qu'on appelle les entretiens semi-structurés. C'est-à-dire, vous allez passer 1 heure ou 2 heures avec un psychologue ou un psychiatre expert qui vous pose des questions en suivant une grille très très précise. Et là, on a des chances quand même de pouvoir cerner, sans trop se tromper, le fait qu'il y ait une personnalité difficile à aider et à soigner. Hein, parce que les personnalités difficiles, on les présente souvent comme les gens qui cassent les pieds des autres, mais ce sont des gens qui se font beaucoup de mal à eux-mêmes également.
Alors qu'est-ce que précisément une personnalité difficile ?
Une personnalité difficile, c'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, est difficile pour les autres et pour lui-même, avec des critères de stabilité dans le temps, dont parlait François. C'est pas juste une réaction. Par exemple, si vous êtes en conflit avec un de vos collègues au travail, pour des bonnes raisons, ça ne va pas faire de vous une personnalité difficile pour autant si, auparavant et ensuite, vous n'étiez pas dans des registres conflictuels avec la plupart des gens. Donc, il y a cette notion de comportement inadapté, en tout cas problématique, qui va durer. Il y a la notion de souffrance pour soi-même et pour les autres. Et avant de se lancer dans l'appellation personnalité difficile, il faut vérifier quand même que ces choses-là aient une certaine stabilité dans le temps, une certaine étendue dans les relations. Une fois de plus, si c'est avec beaucoup de gens qui a ce type de problème, il y a sans doute quelque chose qui coince.
François Lelor.
Oui, et quand on parle, comme disait Christophe, qui cause de la souffrance, et en fait, il faut bien que dans les personnalités dites difficiles, il y a celles qui causent plutôt de la souffrance aux autres, par exemple les personnalités paranoïaques ou les personnalités narcissiques. Et en revanche, il y a des personnalités qui souffrent elles-mêmes pas mal, comme les personnalités dépressives, qui voient un peu la vie en gris, les personnalités anxieuses, qui vivent toujours sur le qui-vive, les personnalités dépendantes, qui ont toujours besoin de soutien, d'être accompagnées. Et d'ailleurs, ces personnalités-là, souvent, sont conscientes, si vous voulez, qu'elles ont un problème de personnalité. Alors qu'il y en a d'autres, pas du tout. Elles trouvent que c'est eux qui sont normaux et les autres qui ne suivent pas.
Alors, vous avez choisi une douzaine de grands types de personnalités, hein, borderline, psychopathique, paranoïaque, histrionique, obsessionnel. Comment avez-vous classé ces personnalités difficiles? Vous êtes basé sur les classifications de l'Organisation mondiale de la santé et vous êtes appuyé également sur le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le fameux DSM, hein, c'est la Bible américaine de la psychiatrie. C'est comme ça que vous avez élaboré ces typologies?
Oui, et pour une raison simple, c'est que ces typologies dont vous parlez, que ça soit celle de la classification européenne ou de la classification américaine, sont adossées à la recherche scientifique. C'est-à-dire, c'est pas juste des étiquettes qu'on met comme ça parce que voilà, on s'aperçoit qu'il y a tel ou tel trait de personnalité qui se regroupent régulièrement, mais parce que, une fois de plus, on a fait des travaux de recherche pour croiser, effectivement. Et vous savez, une personnalité, c'est un ensemble de traits, c'est un ensemble de caractéristiques. Et donc, il faut quand même valider un petit peu les affirmations qu'on propose.
Le but de votre livre, c'est de ne pas étiqueter les individus. Quel est l'intérêt, alors, de ce type de classification ?
Eh bien, c'est justement, si vous voulez, on fait un peu la comparaison avec la météo, c'est-à-dire que aucun ciel ne ressemble à un autre ciel, mais il y a quand même différents types de nuages. Il y a 4 ou 5 grands types de nuages, les cirrus, les stratus, les cumulus, enfin j'en oublie certainement certains. Et avec ça, il y a aussi des formes mixtes, hein, comme les stratocumulus, etc. Et donc, avec simplement 4 ou 5 formes de nuages et toutes les associations, vous pouvez décrire, en fait, énormément de ciels différents. Et avec les personnalités, c'est pareil. Il y a les personnalités bien typiques, celles qu'on va décrire dans notre livre, et puis aucun cumulus ne ressemble à un autre cumulus, si vous voulez. Donc, après, les traits de caractère de telle personnalité vont être plus ou moins accentués par rapport à une autre. Ce qui fait que même avec une classification, vous pouvez décrire une infinité de personnalités.
Question très pertinente de Laure qui nous dit « N'est-on pas tous la personnalité difficile de quelqu'un d'autre ?»
Si, d'une certaine façon, mais ça toute forme de vie humaine en société expose à des frottements, des conflits, des incompréhensions qui ne relèvent pas forcément du diagnostic de personnalité difficile. Effectivement, je sais personnellement que j'ai des traits de personnalité qui parfois posent problème à mon entourage. Je sais aussi que certains de ces traits de personnalité sont accrus lorsque je suis stressé, lorsque je suis fatigué, lorsque j'ai une surcharge de travail. Eh bien, je suis plus facilement grognon, je suis plus facilement introverti, renfermé. Bon, voilà. Est-ce que ça fait de moi une personnalité difficile ? Certainement dans l'instant, pour les autres personnes, mais si j'étais une personnalité pathologique, pathologiquement difficile, alors ce serait quelque chose qui serait constant et permanent. Donc oui, à certains moments, on peut poser des problèmes aux autres. On n'en est pas pour autant toujours une personnalité difficile authentique.
Je serais curieux de voir Christophe André grognon. Question de notre chère Marie-Laure Zonshein de Femme Actuelle.
Oui, bonjour Ali, bonjour à vos bonjour. Invités. Alors, si vous permettez, au commencement étaient les parents. Alors, vous me voyez venir, évidemment. Oui. Dans l'éducation, quel type de messages ou de croyances transmis à l'enfant peuvent se fixer, se développer en lui, finalement nourrir sa personnalité, la rendant difficile à l'âge adulte? Et bien sûr, dans quel type de personnalité difficile parmi celles que vous recensez, l'hérédité est-elle déterminante? Alors, par exemple, est-ce qu'un parent obsessionnel transmet forcément ce trait de caractère à son enfant?
François Lelor.
Eh bien, justement, en fait, non, pas forcément. Heureusement, on n'est pas complètement déterminé par notre hérédité en termes de personnalité. Donc, si vous voulez, toutes les personnalités, pratiquement, on peut retrouver des parts héréditaires. C'est-à-dire qu'on fait des études sur les traits de personnalité, pas simplement chez les difficiles, hein, dans la famille élargie, entre les parents, les enfants. Donc on voit, même chez les enfants adoptés, qu'il y a certains traits qui se transmettent en partie, mais là encore pas toujours. Et puis on voit aussi l'influence de l'hérédité, de l'environnement. Par exemple, dans les personnalités type borderline, on s'aperçoit qu'il y a effectivement plus que chez les autres des traumas dans l'enfance, des situations un peu dramatiques. Mais là encore, ça n'est pas le cas pour au moins la moitié des personnalités borderline, dont on pense plutôt que ce sont des gens au départ hypersensibles et qui ont réagi difficilement à des situations qui n'étaient pas spécialement traumatisantes pour d'autres. Donc comme on dit, c'est toujours un mélange hérédité-éducation. Et en gros, on conclut, c'est toujours la faute des parents, puisque c'est eux qui contiennent nos gènes et notre éducation.
Oui. Et c'est vrai que pour compléter ce que dit François, on utilise même parfois un modèle encore plus compliqué qui s'appelle le modèle biopsychosocial. Mm-hmm. Bio comme biologique, parce que c'est vrai quand même que nous héritons d'un certain tempérament avec une explosivité de nos émotions plus ou moins forte, avec une tendance à résister à la frustration plus ou moins grande. Après, il y a l'aspect psychologique. psychologique qui lui renvoie à toutes ces dimensions éducatives. Est-ce que ce que j'ai reçu comme éducation m'a appris justement à exprimer calmement mes émotions ou m'a appris au contraire à les taire, ce qui me pousse de temps en temps à les voir exploser dans les relations avec les autres? Est-ce que j'ai vécu des événements douloureux, des traumatismes? François parlait des borderline, on sait que chez les personnes qui ont des personnalités borderline, il y a une fréquence importante de traumatismes dans l'enfance. Et puis il y a l'aspect social, biopsychosocial, c'est que certaines sociétés soit vont colorer un petit peu l'expression des troubles de personnalité. C'était le cas, par exemple, pour ce qu'on appelait autrefois les personnalités hystériques, les personnes qui faisaient des grandes crises de nerfs en public, qui étaient assez caractéristiques d'un type de société où on réfrénait beaucoup les émotions, l'expression de sa personnalité. Et puis la société peut aussi être plus permissive par rapport à l'expression de soi, par rapport à la tolérance au narcissisme, etc., etc.
Tiens, à ce sujet, vous avez une question, Marie.
Oui, je me demandais par rapport finalement à ce qu'on vit aujourd'hui, vous savez, cette recherche d'épanouissement personnel, l'hédonisme, la satisfaction immédiate, le fait que le respect des règles soit moins valorisé depuis plusieurs décennies, et puis évidemment Internet et les réseaux sociaux. Est-ce que tous ces changements créent finalement des générations de personnalités difficiles?
François Lelor.
Oui, c'est-à-dire elle crée des personnalités difficiles qui n'ont probablement pas les mêmes profils que les générations d'avant. Mais ce que vous dites très bien, c'est-à-dire la recherche de l'épanouissement personnel, le fait que le respect des règles n'est plus forcément une valeur, le désir de liberté, l'hédonisme, et effectivement Internet à la fois permet de se mettre en avant, d'avoir des satisfactions immédiates, ben tout ça valorise un certain type de personnalité. Et en même temps, on peut dire aussi que dans l'éducation traditionnelle, au contraire, on encourageait le respect des règles, la frustration, l'effort avec une récompense retardée, peut-être ça écrasait au contraire certains enfants déjà un peu sensibles, un peu inhibés, un peu timides, et cela peut-être se sent mieux aujourd'hui. Et inversement, les gens qui avaient déjà tendance à ne pas respecter les règles et à rechercher que leur épanouissement, ils sont en quelque sorte libérés par ces nouvelles valeurs et du coup ils peuvent devenir un peu plus difficiles.
Allez, dans quelques instants, on s'intéresse aux personnalités borderline. En attendant, on écoute Michel Jonas. Dites-moi.
Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poils de marte pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épingles qu'elle a pris soin d'abandonner pour que je pleure. J'ai cloué ma porte, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses, mis du papier journal sous les fenêtres. J'entendais de l'école trop de cris, il n'est rien né de notre lit. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi.
Ah, cette chanson plaît beaucoup à Christophe André. Michel Jonas, dites-moi.
Call me Washington, C-O-4-O-O-O, urgent, call me back, 5.
Grand bien vous fasse.
Yes, no, ok.
Sur France Inter.
Comment gérer les personnalités difficiles? C'est notre thème cet après-midi avec les psychiatres François Lelore et Christophe André.
Je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui viendrait en aide à n'importe qui, qu'on peut appeler à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour. Je suis tout le temps présente. Le problème, c'est que je suis aussi capable du pire. Alors, pas envers les autres, mais envers moi-même. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, dont la dernière en date du mois de juillet. Je connais pas mes limites, en fait. Je crois que j'en ai pas. Et souvent, je me suis mise en danger en prenant des cachets avec de l'alcool, par exemple, en faisant tout un tas de choses. Le problème, c'est que un jour, en testant ses limites, je risque d'y laisser ma peau. Je suis pas sûre que mon entourage ait envie de ça. Moi, à la limite, aujourd'hui, je crois que je n'ai plus rien à faire.
Témoignage issu de l'Association pour la formation et la promotion de l'état limite. Christophe André, François Lelore, dans votre livre « Comment gérer les personnalités difficiles », vous évoquez la personnalité borderline, un terme utilisé pour la première fois en 1938. Borderline, ça veut dire état limite. Expliquez-nous les principales caractéristiques de cette personnalité borderline.
Alors, c'est une des personnalités les plus douloureuses à vivre à la fois lorsqu'on a cette personnalité et puis lorsque on doit vivre avec d'autres personnes. Elle est marquée par l'instabilité, c'est-à-dire il y a une instabilité vraiment très importante dans les relations aux autres. On a du mal à garder toujours une relation apaisée, claire, explicite. Il va y avoir des moments où on va être très en colère, on va beaucoup leur en vouloir, etc. D'autres où on va avoir tellement besoin d'eux qu'on est prêt à tout pour se faire aimer d'eux. Donc ça, c'est très fatigant et pour la personne et pour son entourage. Il y a aussi une instabilité très forte de l'image de soi. Les personnes borderline, à certains moments, comme le disait ce témoignage très, très, très juste, elles vont se détester. Elles sont souvent amenées à se faire des automutilations, à des violences, à se faire du mal, évidemment, au travers des tentatives de suicide. Ce sont souvent des personnes aussi qui ont une grande impulsivité, qui ont beaucoup de mal à contenir à la fois leur colère, leurs agacements, mais aussi leurs envies, leurs pulsions. Donc, vous voyez, c'est un mélange un peu...
Un sentiment de vide aussi.
Un sentiment de vide fréquent, la peur d'être abandonnée, la peur de se retrouver seule. C'est-à-dire, à la fois, elles ont énormément besoin des autres, mais elles sont incapables de rester à côté des autres et de vivre de façon à peu près stabilisée. Elles sont dans une instabilité constante des pensées, des émotions, des relations, ce qui rend leur vie très douloureuse.
François Lelore.
Oui, mais comme disait Christophe, c'est l'instabilité à la fois des émotions, des relations avec les autres, et puis des relations avec soi-même. C'est-à-dire que les borderline, les personnalités ont des grands doutes sur elles-mêmes. Parfois, elles ne savent pas ce qu'elles cherchent dans la vie, ce qu'elles valent. Elles peuvent se dévaloriser. Et comme disait d'ailleurs un spécialiste, elles sont instables de manière stable. Ou comme disait le mari d'une patiente borderline, avec elle, c'est toujours orage avec éclaircie. Alors ça peut faire des personnalités très attachantes, parce que parfois un peu comme cette patiente, ça peut être des gens avec beaucoup d'empathie, pas mal de générosité, mais qui en même temps sont imprévisibles et sont sensibles, comme disait Christophe, la peur de l'abandon, c'est-à-dire, je sais pas, vous répondez un peu tardivement à un texto, et aussitôt elles vont en faire un drame, avoir une crise émotionnelle, et se calmer en vidant une demi-bouteille de whisky ou des tranquillisants.
La personnalité borderline se manifeste bien souvent dès l'adolescence.
Oui, c'est la période où ces difficultés vont apparaître. Malheureusement, comme on l'évoquait tout à l'heure, beaucoup de personnalités borderline ont été victimes de carences affectives et parfois même au-delà de la carence de violences affectives, pas toutes. Je crois que c'est à peu près les deux tiers d'entre elles qui ont subi des événements éducatifs ou traumatisants très très significatifs. Donc évidemment, c'est un peu plus tard que ça va s'exprimer. Alors, la bonne nouvelle, parce que c'est vrai que c'est un tableau un peu sombre, un peu triste, hein, ces personnalités borderline, c'est que le temps joue en leur faveur. Mmh. C'est-à-dire qu'en prenant de l'âge, avec le temps qui passe, effectivement, les symptômes, elles apprennent à les apprivoiser, à les contrôler. Elles peuvent aussi aller en thérapie, évidemment, ce qui est l'idéal.
Important, que faut-il faire et que ne faut-il pas faire avec une personnalité borderline ?
Ah, la liste est longue.
François Lelore ?
Eh bien, surtout, il faut éviter de réagir à chaud. Et comme disait un autre spécialiste, avec les borderline, il faut battre le fer quand il est froid. C'est parce qu'on fond, si on réagit avec emportement face à une borderline ou un borderline qui veut taper sur les nerfs, bah lui-même, bah, comme on dit, monter dans les tours et on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc il faut avoir des qualités un peu de constance, montrer qu'on la comprend et qu'on sait que ça n'est pas du cinéma, je veux dire qu'elle ressent réellement ses à-coups émotionnels, ne pas lui en tenir rigueur. Si on lui fait des critiques, parce que de temps en temps il faut quand même la rappeler un peu à l'ordre, c'est critiquer ses comportements et non pas sa personnalité, il faut pas dire... tu es complètement détraqué, tu m'en fous, mais plutôt dire, écoute, là, hier soir, quand tu t'es mis en colère, ça m'a vraiment affecté. Mais même là, on peut avoir un risque, ça peut être perçu comme un rejet, et ça peut... Donc en fait, il faut être constant, calme, il faut être un peu à l'opposé de cette personnalité. Et d'ailleurs, les personnalités borderline, quand elles vont mieux au fil des années, elles disent souvent que c'est grâce à des bonnes rencontres qu'elles se sont améliorées. Mmh. Dire un patron qui les a bien comprises ou un partenaire compréhensif et stable et qui conduit, si j'ose dire, avec prudence, c'est-à-dire en évitant les chaos.
Bonjour Martine, bienvenue.
Bonjour.
Vous étiez, vous nous l'avez dit au standard, une personne borderline.
Ah oui. Oui, quand j'étais plus jeune, oui, à partir de 15 ans, 14-15 ans, j'étais... borderline, j'étais toujours dans la colère, dans la jalousie aussi, beaucoup dans la jalousie. Il fallait que ça explose, quoi. Il fallait que ça saute. C'était très difficile, très difficile. Mmh.
Comment avez-vous vécu avec les autres en étant une personnalité borderline?
Alors, avec les autres, si vous voulez, à l'extérieur, au niveau de mon travail, par exemple, ça se passait toujours bien parce que je voulais être la meilleure, je voulais qu'on m'aime, en fait. Donc, mais c'était surtout au sein familial où c'était marié et tout ça, et avec les amis où j'étais, voilà, le moindre mot me contrariait et j'explosais et il ne fallait pas en rajouter, quoi. C'était très difficile, mais je souffrais beaucoup.
Et comme vient de le dire Christophe André, vous vous êtes entre guillemets assagi avec le temps.
Oui, et justement, c'est une rencontre, ce que vient de dire Christophe André. C'est une rencontre avec une personne dont je suis devenue amie, qui était professeure de yoga et qui m'a amenée avec beaucoup de courage à la sérénité, puisque j'ai un âge aujourd'hui avancé, j'ai 72 ans, donc je suis très très contente et je m'en veux d'avoir eu ce caractère, mais je voudrais préciser que c'était une enfance très difficile. C'était le cas, voilà.
Christophe André.
Oui, merci beaucoup Martine, votre témoignage est tout à fait clair sur ce profil des personnalités borderline. Vous nous avez dit quelque chose de très important, c'est que c'est souvent avec vos plus proches, sur le plan affectif, vos amis, votre famille, que vos explosions, en tout cas vos souffrances, vos inquiétudes, étaient les plus violentes. Alors qu'au travail, vous arriviez à pacifier ça, à dominer un petit peu tout ça. Et c'est quelque chose d'encourageant. C'est vrai que les borderline peuvent peu à peu, tout doucement, reprendre la main sur l'explosivité et l'instabilité.
Restez avec nous, Martine. Nous accueillons Anne. Bienvenue, Anne.
Bonjour.
Alors, vous avez vécu avec une personne borderline, hein ?
Oui, exactement. Oui, pendant 10 mois. Mm-hmm.
Et vous nous avez parlé au standard d'enfer.
Oui, exactement, parce que je savais pas comment me comporter. Je suis une personne bienveillante, attachante, et dans tout le temps de ma relation, j'ai voulu l'aider en fait dans sa, je sais pas comment dire. Ouais.
Christophe André, quel conseil on peut donner à ceux qui vivent avec des personnes borderline, ceux qui vivent en couple avec ce type de personnalité?
Ah, c'est très embarrassant parce que parfois, malheureusement, le conseil, c'est quelles sont vos capacités à rester avec un autre aussi endolori? Quelles sont vos capacités à l'aider? Quelles sont vos capacités à ne pas sombrer avec cette personne? Donc, Anne, au bout de 10 mois, a pris la décision de quitter cette personne borderline, parce que l'amour ne suffit pas, il ne suffit pas d'aimer, d'être compréhensif. Malheureusement, on est face à une personnalité qui relève, honnêtement, de toutes les personnalités difficiles. Les borderline sont vraiment ceux qui relèvent de la psychiatrie. Et vous savez, il y a même en psychiatrie, en psychothérapie, des protocoles spécifiques pour les borderline. Ce sont des patients tellement complexes qu'on a mis au point des thérapies spécialement destinées au borderline, qui mélangent effectivement la prise de conscience des émotions, des exercices de méditation, des exercices d'auto-bienveillance, de une approche médicamenteuse. Donc ça, c'est au-delà de ce que peut apporter un conjoint. Le conjoint peut apporter de l'amour, de la stabilité, mais à condition qu'il ne soit pas détruit dans la relation lui-même.
Vous confirmez, Anne ?
Oui, complètement. Je suis devenue un légume. Je savais plus quoi faire et en fait il devenait violent et j'ai eu peur de lui et j'ai dû partir en fait avant que ça soit trop tard.
Merci beaucoup Anne de nous avoir appelé et merci également à Martine. Question de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Oui, toujours sur les personnalités borderline, vous l'écrivez, on a cru assez longtemps que c'était surtout des femmes, on vient de l'entendre avec Martine, or des études plus récentes montrent que le trouble est presque aussi fréquent chez les hommes. Alors qu'en est-il sur cette personnalité-là et plus généralement sur les autres personnalités difficiles que vous évoquez? Est-ce qu'on peut estimer que certaines sont plutôt masculines ou féminines?
François Lelor.
Oui, par rapport au rôle traditionnel masculin-féminin, on va dire que oui, certaines personnalités sont qualifiées de féminines, mais en fait après, quand on fait des études, on s'aperçoit que non, il y en a dans les deux sexes. Et par exemple, chez les borderline, on peut dire que le fait d'être instable, violent, impulsif, j'allais dire, ça peut être plus accepté dans la virilité traditionnelle que chez une femme. Donc c'est pour ça que ça s'est longtemps passé peut-être inaperçu. Il y a les rôles traditionnels. Certaines personnalités ressemblent un peu plus à des rôles traditionnels, mais en fait se retrouvent dans les deux sexes. Il y a quand même plus de borderline chez les femmes.
Sur cette histoire de clichés par rapport au sexe, inversement, les personnalités hystériques, qu'on appelait autrefois hystériques, qu'on appelle aujourd'hui histrioniques, parce que ça vient pas du tout de l'utérus, hystéros, utérus, se retrouvent beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pensait chez des hommes. Donc, effectivement, plus on creuse, plus on s'aperçoit que la répartition traditionnelle, les femmes sont ceci, les hommes sont cela, est quand même un petit peu bousculée.
Anna nous écrit « Je suis un peu dérangée par le thème de personnalité borderline ou personnalité comme ci ou ça. Est-ce que ça n'enferme pas justement la personne dans ce seul trait de sa personnalité? La personne, il me semble, est plus grande que ce seul trait de personnalité. » Christophe André.
Oui, c'est effectivement, mais on en parle beaucoup tout au long du livre, c'est le risque de l'utilisation d'étiquettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise quand même beaucoup, les uns et les autres, des étiquetages intuitifs. Il y a les casse-pieds, les sympas, les gentils, les généreux. Donc, on a tendance à se simplifier un peu la vie en mettant des étiquettes sur les gens. Là, ce qu'on a voulu dans le livre, c'est rappeler qu'il y a des étiquettes peut-être plus fiables, plus solides que d'autres, mais qu'il ne faut jamais en rester simplement à cet étiquetage.
Oui, d'ailleurs, pour prendre un exemple un peu extrême, la personnalité paranoïaque, donc qui sont des gens méfiants, autoritaires, très rigides. Alors évidemment, il y a des dictateurs qui sont des exemples de paranoïaques, donc ça paraît très négatif. Mais il peut aussi y avoir des gens avec des tendances paranoïaques, mais avec un sens moral élevé, et qui peuvent au contraire devenir de grands dissidents, des défenseurs de nobles causes, des protecteurs d'une association. Donc le terme paranoïaque ne réduit pas, si vous voulez, la personne simplement à ses traits de méfiance et de rigidité. Il y a quelles sont ses valeurs morales et quantité d'autres choses, son intelligence, vous voyez.
Tiens, que faut-il faire et ne pas faire avec une personnalité paranoïaque, Christophe André? Comment faut-il se comporter et que faut-il éviter de faire?
Alors, c'est comme avec toutes les personnalités. Il faut comprendre leur fonctionnement, il faut comprendre quelles sont les situations qui vont déclencher chez elles de l'inquiétude, du doute, de la détresse. Donc, les paranoïaques, ce qui leur déplaît beaucoup, c'est d'une part que vous ne respectiez pas les règles, que vous ne respectiez pas la loi, que vous disiez du mal d'eux alors que vous n'êtes pas en face, que vous trahissiez une parole donnée, etc. Et puis, effectivement, que vous puissiez avoir envie de leur nuire. Et ils ont très peur des agressions d'autrui, de la médisance d'autrui, des complots. Et d'ailleurs, François parlait des grands dictateurs paranoïaques. Malheureusement, si vous voulez être dictateur, il faut absolument que vous soyez paranoïaque. Il faut voir des complots partout, parce que parfois, il y en a réellement contre vous. Et donc, effectivement, respecter le mode d'emploi des paranoïaques, ne pas se laisser écraser, envahir, dominer, mais comprendre aussi que dans ce qui est important pour eux, il y a des choses effectivement qui sont éventuellement recevables.
Ah mais dites donc, j'ai horreur qu'on se moque de moi, hein, surtout à l'étranger. Mais je comprends tout, c'est toi, hein.
Plaît-il ?
C'est toi, Fantomas ! Tu as mis le masque de Lord McCrashley ! Allez, donne-moi ton masque, donne-moi ton masque. Allez, donne-moi ton masque.
Mais enfin, commissaire, voyons.
Mais enfin, on va la défaçon. Mais enfin, commissaire, lâchez-moi. Vous voyez bien, j'ai pas de masque. Venez voir. Venez voir, je
vous
me
prends. Venez
voir. Suivez-moi. Venez voir. Mais c'est le même, c'est exactement le même. Vous allez voir. Vous allez entrer. Vous allez voir, c'est terrible. Terrible. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, il était là. Enfin, il était là, donc il doit être là, vous me croyez ?
Extrait de Fantomas avec évidemment Louis de Funès. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse au comportement de type A. C'est quoi un comportement de type A ? On utilise rarement cette dénomination dans la vie courante. Peut-on dire que le personnage de Louis de Funès dans la plupart de ses films, le capitaine Haddock ou Donald Duck, ont des comportements de type A ? Expliquez-nous, Christophe André.
Oui, ça va. Louis de Funès est merveilleux pour ça. Rien qu'en entendant sa voix, on imagine son comportement, sa façon de voir le monde. Alors, les comportements de type A sont... là, c'est une petite entorse qu'on s'est permise dans le livre. Ce n'est pas une personnalité recensée par les classifications psychiatriques, mais c'est quand même un ensemble de traits.
Pourquoi de type A ?
Alors, ça, c'est les premières recherches scientifiques qui ont identifié le type A et le type B. Le type A... qui effectivement est quelqu'un qui est toujours en lutte contre le temps, qui veut toujours faire les choses le plus vite possible, qui est impatient, qui supporte pas l'attente, etc. Qui est un peu en lutte contre les autres, qui est vite agacé par les gens, qui lui font perdre du temps, qui vit toutes les situations sociales comme des situations de compétition. Hein, si vous jouez au domino avec eux, au Monopoly, il faut qu'ils gagnent. Si vous faites un petit footing avec eux, il faut qu'ils arrivent les premiers.
Et le type B, c'est plutôt Gaston Lagaffe.
Et c'est effectivement des gens beaucoup plus paisibles, qui prennent leur temps, qui ne vivent pas les autres comme des obstacles. Donc c'était un peu ça le point de départ de cette classification scientifique qui remonte aux années 50 et qui effectivement garde de sa pertinence.
François Lelort.
Oui, et Christophe, oui, rappelle que c'est pas une classification psychiatrique au départ. Ce sont les cardiologues qui ont trouvé ça en remarquant qu'un certain nombre de leurs patients, justement impatients, en compétition toujours, très impliqués dans l'action, avaient un petit peu plus de risques cardiaques que les autres. Je pensais à un autre exemple de type A pour ceux qui aiment la série Homeland. Hey. Carrie Mathison, c'est l'exemple d'un type A, parce qu'elle est toujours dans l'impatience. Elle supporte pas que les choses n'avancent pas. Et inversement, son mentor et son chef, Saul Berenson, c'est plutôt un type B, c'est-à-dire qu'il prend le temps de réfléchir, qui se met un peu à distance. Et le type A, on le reconnaît, je trouve, surtout dans les loisirs. Parce que finalement, sous la pression du travail, tout le monde peut devenir un peu type A, impatient, ne supportant pas qu'on le ralentisse, s'impliquant dans l'action pour avoir de bons résultats. Mais le type A en vacances, il va continuer à se mettre des objectifs, à se mettre sous pression. Et là, ça met sa famille sous pression.
Quels sont les comportements adoptés avec une personnalité de type A, les choses à faire, les choses à ne pas faire?
Déjà, le toujours pareil, quoi. Commencer à apprivoiser un petit peu sa manière de fonctionner. Mais peut-être que c'est sans doute avec les types A qu'il est le plus simple d'aborder ces choses-là de manière frontale. C'est compliqué d'aborder une personnalité paranoïaque de manière frontale. pour les borderline dont on a parlé, ça peut l'être si on parle de la souffrance. On dit, écoute, j'ai l'impression que tu souffres beaucoup dans telle et telle situation. Et pour les type A, ça peut être aussi par la question du stress et de l'hostilité. Un des problèmes du type A, comme le disait François, si les cardiologues auraient été les premiers à les identifier, c'est parce qu'ils avaient des accidents cardiaques liés au stress et liés notamment à cette dimension hostile, être vite agacé, énervé par les autres et ressentir des sentiments hostiles allant de l'irritation à la véritable colère. Et donc, aborder cette question avec eux, mais après avoir quand même évité de trop agiter le chiffon rouge en les faisant poireauter.
Vous conseillez dans votre livre, avec ces personnalités de type A, d'être fiable et exact, de s'affirmer chaque fois qu'ils tentent de nous mettre sous contrôle, de les aider à relativiser et de leur faire découvrir les joies de la détente, les choses à ne pas faire, ne pas négocier avec ce type de personnalité à chaud et ne pas se laisser entraîner dans des compétitions inutiles.
A vine grows in the jungle like a line flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath. It likes your cosmic style. A satellite in bracelets just a while. We us the pharaohs live for our own ideals. Stained glass and tarot cards can tell us how you feel. Down by over, up round here. Goose tips and sailors, I'll be home in a year. A tree grows towards the sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email, thankfully. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We us the
Maxwell Farrington et le super homard interprété We as the Pharaoh.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Comment gérer les personnalités difficiles? C'est notre thème cet après-midi avec les psychiatres François Lelor et Christophe André.
Alors, terminé, la partie terminée, mais quel détail! Ça s'étale!
Non, mais quel droit vous lui parlez sur ce ton, vous?
D'abord, c'est pas à vous que je parle, d'abord.
Mais vous savez à qui vous parlez, là?
Je parle à un employé, voilà.
Pauvre cachalot crevé, c'est le plus grand écrivain de sa génération.
Oh, écoute, là, tu
ta gueule!
Non, mais c'est pas écrit sur son visage, si vous voulez savoir. C'est pas écrit sur son visage. Moi, ça n'a même pas de slip. Non, mais tu
Oh, merde. Bah, vas-y, maintenant, Matt, espèce d'enculé, va.
Petite
bêtise. Tu vois, ta gueule, laisse-moi. Eh bah, tiens, vas-y, maintenant, regarde, Matt. Allez, t'es bien placé, là, maintenant. Ta gueule, toi.
Espèce de furie.
Ça va? Hein, vous vous êtes senti mal?
Culé! Ah, vous avez intérêt à vous débarrasser de cette fille, hein? Hystérique! Je ne veux plus la voir! C'est un danger public! Pauvre fille, là! Regardez-moi ça! Quelle honte! Salope!
Dans cet extrait de 37.2 Le Matin, l'un des personnages traite Béatrice Dalle d'hystérique. Christophe André, en psychiatrie, on a abandonné le terme d'hystérie. On parle plutôt de personnalité histrionique. Expliquez-nous.
On l'a abandonné pour tout un tas de raisons. D'une part, parce que effectivement l'étymologie renvoyait à l'utérus, et on a vu que des hommes pouvaient être hystériques, et puis que l'hystérie n'avait rien à voir avec l'utérus. Deuxièmement, on l'a abandonné parce qu'on s'est aperçu que c'était devenu une façon dévalorisante de parler des femmes. Là, le monsieur, dans l'extrait de film, la traite de furie, d'hystérique, de pauvre fille, de salope. Enfin, on voit le vrac quand même très peu subtil, quoi, dans cet étiquetage. Donc, on a décidé de ne plus utiliser un terme qui portait trop à préjudice, parce que la chose existe. Hein. La personnalité donc histrionique décrit des personnes, pas seulement des femmes, donc une fois de plus, qui ont une espèce d'insécurité affective, d'insécurité de leur image, et qui cherchent à capter l'attention, à se faire aimer, à se faire apprécier, qui ont beaucoup de difficultés aussi à clarifier leurs besoins émotionnels, qui ont une certaine tendance dans les relations qu'elles ont avec les autres personnes, à commencer par avoir beaucoup d'attentes, beaucoup d'idéalisation, puis après, évidemment, quand on idéalise quelqu'un, on est forcément déçu, mais elles sont très déçues, très désappointées, donc ces personnalités sont des personnalités qui souffrent beaucoup, qui finalement souffrent plus qu'elles ne font souffrir leur entourage, et auxquelles il faut réserver désormais le nom d'histrionique et non plus d'hystérique.
Oui, Conny et Christophe sont des personnalités sensibles et en fait qui ont vraiment se sentent obligés de charmer, d'attirer l'affection des autres, et par des comportements justement un peu théâtraux, un peu excessifs. Comme on dit, elles en font trop, elles font un peu leur cinéma. Alors, je trouve que, sans vouloir donner des étiquettes, quand on regarde les émissions de télé-réalité, eh bien, aussi bien chez certains garçons, chez certaines filles, on sent une tendance à la personnalité histrionique. Et d'ailleurs, ils ont été recrutés pour ça, parce que ça passe rudement bien à la télé, quelqu'un qui fait un peu étalage de ses émotions et de ses sentiments.
Tiens, vous me donnez envie de regarder Les Marseillais. ça ressemble quand même pas mal à la personnalité borderline, la personnalité histrionique. Je me trompe, ou d'après ce que vous décrivez, j'ai l'impression qu'il y a un cousinage.
C'est vrai que ça pourrait être une forme soft par certains aspects. Effectivement, la difficulté à stabiliser une relation, avoir une relation un peu adulte, un peu mûre, la mauvaise qualité de l'image de soi, l'instabilité des émotions. Mais chez les borderline, d'abord, c'est beaucoup plus violent. Et puis ensuite, il y a d'autres symptômes, comme la toxicomanie, etc.
Que faut-il faire et ne pas faire avec les personnalités histrioniques ?
Eh bien, ce qu'il faut d'abord, c'est comprendre que il ne faut pas se dire, elles font leur cinéma, c'est, pour elles, c'est sincère, c'est leur mode de vie.
Il ne faut pas se moquer d'elles.
Il ne faut pas se moquer d'elles, voilà, exactement. Et il faut, disons, à la fois les respecter sans complètement entrer dans leur jeu, et là aussi essayer d'attirer leur attention sur leur comportement excessif, mais tout en les rassurant, c'est-à-dire en leur montrant finalement qu'on est là, qu'on est stable. La différence avec les borderline, c'est qu'elles sont rassurables beaucoup plus facilement, une fois qu'on a montré une certaine constance, une certaine bienveillance. Avec les borderline, c'est plus compliqué, parce que elles vont être sensibles au moins de petits signes de ce qu'elles prennent pour du désamour. Donc on fait une constance, un certain respect, mais aussi marquer des limites, en particulier ne pas se tromper, et croire que la grosse erreur, c'est par exemple avec quelqu'un qui vous fait du charme, hein, de croire que ça y est, comme on dit, on a un ticket, alors que non, pas du tout, la personnalité est juste en train de vérifier, mais c'est aussi pour les hommes, que vous plaisez, voyez, qu'elle vous plaît. Mais ça se trouve aussi chez les hommes, hein. Il y a des hommes histrioniques qui n'arrêtent pas un peu comme ça d'allumer, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller plus loin.
J'aimerais qu'on s'intéresse à une personnalité qui peut sembler, et qui est sans doute un peu effrayante, c'est la personnalité psychopathique que l'on retrouve très souvent en littérature ou au cinéma. Comment reconnaître cette personnalité à tendance psychopathique ?
Alors, d'abord, il faut dire que les personnalités à tendance psychopathique, une fois de plus, ont toujours existé. On fournit et continue de fournir, malheureusement, un gros contingent de personnes délinquantes, marginales, qui ont beaucoup de mal à s'intégrer en société, dans les groupes humains.
C'est quoi le portrait robot ?
Alors, le portrait robot, c'est, pour les personnalités psychopathiques, d'abord, une difficulté avec l'empathie, la difficulté de comprendre que les autres peuvent souffrir, d'identifier leurs souffrances, etc., etc. Deuxièmement, il y a un besoin de sensations fortes. C'est des personnalités qui sont intolérantes à l'ennui, qui ont besoin de passer à l'acte, d'être stimulées, de vivre rapidement.
De transgresser.
De transgresser. Il y a voilà, un certain frisson lié à la transgression. Ce sont des personnes aussi qui ont une idée d'elles-mêmes assez fréquemment, pour les personnalités psychopathiques en tout cas, un petit peu surévaluées, c'est-à-dire qui ont tendance à se vendre sous leurs bons aspects, à parler, à mentir sur ce qu'elles sont, sur ce qu'elles savent faire, sur ce qu'elles ont fait dans le passé. Donc, on voit que ça peut, quand on parle de psychopathe, on voit quelqu'un de balafré, qui a fait déjà plusieurs fois de la prison.
Le bad boy.
Voilà, mais ça peut être aussi des gens très chics, en col blanc, en cravate. Hein. Ça a été d'ailleurs une des découvertes qui ont été faites ces dernières années sur ce qu'on appelle la psychopathie en col blanc.
Faut-il fuir les personnalités psychopathiques, François Lelor ?
D'une manière générale, on pourrait dire oui, puisque comme ils ont finalement assez peu d'empathie pour les dégâts, enfin la souffrance qu'ils peuvent vous causer, ils vont être assez difficiles à modifier. Alors après, Christophe a parlé effectivement des psychopathes délinquants, mais il y a aussi des gens amusants qui ont des traits psychopathiques, c'est-à-dire qui sont effectivement charmeurs, un peu vantards, un peu manipulateurs, qui savent toujours se débrouiller, qui aiment bien les activités à risque, et qui peuvent être des compagnons occasionnels, si vous voulez, amusants, mais en sachant évidemment qu'ils ont aussi tendance à être un peu parasites, à essayer de vous avoir, à essayer de tirer avantage de vous. Donc il faut rester sur ses gardes.
Merci beaucoup François Lelor et Christophe André. On peut lire avec profit Les nouvelles personnalités difficiles et c'est publié chez Odile Jacob. Demain, dans Grand Bien vous fasse, une émission consacrée à l'admiration. Et dans un instant, je vous propose de retrouver la série d'Antoine Compagnon, Un été avec Colette.
Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous ?
Claudine.
Un été avec Colette.
J'ai beaucoup entendu parler de vous.
J'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire. Vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Par Antoine Compagnon, cela sent la littérature à plein nez.
Ce qui me m'étonne le plus chez Colette, c'est que vraiment, vraiment, elle, pendant, je crois, toute sa vie, elle a détesté écrire.
Joseph Kessel.
Elle l'a fait au début, disait-elle, moi je ne crois pas, mais elle me l'a répété 100 fois. Si elle avait pu gagner sa vie autrement, elle l'aurait fait.
Tout au long de sa carrière littéraire, Colette n'a cessé d'insister sur son peu de goût pour le métier d'écrivain et sur sa méfiance de la littérature. Écrire aurait toujours été un pinsomme, une activité à laquelle elle se serait livrée sans joie pour gagner sa vie. C'est du moins ce qu'elle prétend, et cela tient en partie de la pause. Dans ses entretiens avec André Parinaud, elle multiplie les piques contre la littérature.
Si vous le permettez, je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans la retraite sentimentale presque à la fin. C'était simplement, banalement, la voix secrète, une mobilisation presque douloureuse.
Si je vous interromps, mais je vous assure, je supporte de plus en plus mal ce que j'appelle la littérature, surtout dans mes propres œuvres.
Elle avait été tôt formée en réaction contre la prose oratoire et les vers faciles de son père, qui déclamait lors des fêtes municipales.
« Toujours trop d'adjectifs !»
lui opposait-elle enfant. Mais elle avait conservé de la complaisance pour le style fastueux, puisqu'elle reconnaît que la leçon de Willy fut profitable. « Je ne savais pas, ma chère, que j'avais épousé la dernière lyrique. Mot dur, sans doute juste, et qui ne me fut pas inutile. » Colette se reconnaît deux seuls maîtres. Balzac, qui ne la quitta pas de l'âge de 7 ans à sa mort, et Courteline, qu'elle fréquenta au théâtre.
« Si j'ai appris le langage des bêtes avec Sido, je me vante d'avoir appris le français dans Courteline. Sa voix de chauve-souris rappelait l'oreille, écorchait le plâtre des murs. »
Colette s'inspira de lui pour ne jamais renoncer à son accent.
« Il m'appelait « ma petite Colette » avec un grand accent circonflexe sur le « e » du milieu et un seul « t ». L'inflexion faubourienne dans sa bouche avait de la grâce.
La comédie humaine fut sa Bible.
Par où entrais-je dans Balzac ? J'en ai perdu le souvenir. Tous chemins sont bons qui accèdent à une pareille conquête. Balzac a été la religion de mon adolescence, le guide de mon éducation première.
Confiera-t-elle encore en 1950. Directrice au Matin, elle découvrit Simenon en 1923 et lui fit la leçon.
Georges Simenon.
Je suis allé voir Madame Colette et tout de suite elle m'a appelé mon petit Sim. Vous savez, j'ai lu vos comptes, j'ai dû vous les rendre déjà depuis 3-4 semaines parce que ce n'est pas ça. C'est presque ça, mais ce n'est pas ça. Vous comprenez, vous faites trop littéraire. Il ne faut pas faire de littérature. C'est d'ailleurs un des conseils qui m'a le plus servi dans ma vie.
Le format de Colette est court. L'article, le conte, la chronique. La plupart de ses livres sont des recueils. Ses romans, elle s'y attelle l'été, à Reusven, puis à la Treille Muscate.
Quand Colette travaillait-elle ?
Elle disait le matin, aujourd'hui, je vais travailler.
Germaine Beaumont.
Et elle entrait dans un tunnel de douleur. Et elle commençait à faire des petits dessins dans les marges pour se mettre en train. Et puis tout d'un coup, elle entrait dans le travail.
Mais quand vient le temps de la parution en feuilleton à l'automne, la copie n'est jamais prête. Colette peine sur la fin des livres. Ses lettres à Marguerite Moreno sont des litanies de plaintes. La dernière page du blé en herbe l'a tourmentée.
J'ai une telle horreur de la grandiloquence finale.
La fin de Chérie lui a beaucoup coûté.
Cette fin de Chérie sera la mienne, tant elle m'ennuie.
Colette publia de jolis souvenirs d'un écrivain qui ne voulait pas écrire. Elle y dénie toute vocation d'écrivain.
Cette répugnance que m'inspirait le geste d'écrire n'était-elle pas un conseil providentiel ? Il est un peu tard pour que je m'interroge là-dessus. Ce qui est fait, est fait. Mais dans ma jeunesse, je n'ai jamais, jamais désiré écrire.
Est-ce de la pause encore ? Ou bien la conscience de ce que coûte la littérature ?